Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Allez, go, go, go. Bonjour à tous. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. 32-16 pour discuter, pour débattre avec nous jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Bruno Pommard, maire de Belleflou dans l'Aude, l'ancien policier du RAID, instructeur du RAID. Bonjour Bruno.
Bonjour Monsieur Marchal, Monsieur Truchot. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, grande gueule de qualité en face.
Ah bah, tu parles, tu as un professeur d'économie, Monsieur Frédéric Farah. Bonjour.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois.
Nous sommes avec une professeure Histoire, géographie, Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, parce qu'on a un boxeur là.
Ah oui.
Frédéric Farah, et je voudrais avoir l'œil du professionnel, notre Rocky Balboa à nous, voilà. Frédéric Farah.
Parce que
sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, mais la photographe officielle d'Emmanuel Macron a publié des photos du chef de l'État en train de faire de la boxe,
oui,
en noir et blanc, avec le regard crispé, en train de taper sur le coussin, le sac plutôt.
Le sac.
Et surtout, ce qui impressionne, c'est le biceps de Monsieur Macron.
C'est le biceps. Non mais je trouve. Alors tout d'abord, là, c'est totalement grotesque.
Avec les veines apparentes.
Moi, je trouve ça totalement grotesque pour plusieurs raisons. Quand on a le droit d'être un amateur, j'en suis. C'est pas la peine de s'afficher comme ça. Alors avec cet air crispé, la tête qui penche trop sur le sac, c'est pas bon du tout. Hein, je veux dire, je suis désolé. Là, la technique, c'est.
Donc
c'est
la pas... position n'est pas une bonne
non,
position.
Non, la position, elle est pas terrible. En plus, on voit bien la position des mains. Qui est un peu trop basse.
C'est les mêmes que celles de Kate Middleton sur la
photo. Et donc, après ce côté un peu ridicule, et c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, lorsqu'on frappe, pour bien frapper, il faut être relâché et pas tendu. Donc là, il est hyper tendu, alors qu'il faut plutôt, comment dire, avoir une certaine fluidité, on le monte pas, et en fait, ce côté un peu crispé.
Donc c'est une pause, en fait.
C'est de la pause. En fait, je pense que. Il doit s'intéresser à la boxe comme moi je dois m'intéresser à la physique nucléaire.
Alors c'est pas ce qui est dit. Il paraît qu'il boxe régulièrement, qu'il se tient en forme. Et on devrait se féliciter d'avoir un président en forme qui fait attention à sa santé. Parce qu'il a quand même des grosses journées,
et
non?
Edouard Philippe aussi le fait.
Oui,
c'est un très bon boxeur.
Non, mais je ne doute pas. C'est-à-dire, mais je pense que quand on fait de la boxe en amateur, ce qui est mon cas, ce serait la dernière idée du siècle d'aller m'afficher d'ici de là.
Là, c'est une photo poutinesque.
Non, oui, attends, c'est presque poutinesque. Il manque
plus. Tu t'appelles pas Macron, excuse-moi.
Non, mais de la personnalité, là.
C'est le culte de la personnalité, et d'autant plus que la prochaine fois, s'il veut faire Poutine, il doit absolument mettre un kimono et avec une ceinture noire.
Avec un ours à côté.
Et avec un ours à côté.
Olivier.
Alors attends, parce que Bruno.
Oh là là,
les choses sur le plateau des GG. Bruno Pommard nous montre son tatouage.
Oui, il s'est fait tatouer la panthère noire du RAID sur l'épaule droite. Il est en train de monter.
Ça m'impressionne.
Tu as fait de la boxe quand même. Moi, je suis gain d'argent en boxe française. J'étais lutteur de haut niveau. Je suis ceinture noire en judo. Ben, je suis un mec complet, quoi. Un peu le.
Et toi aussi. On sent que dort en toi le macronisme.
L'ego surdimensionné.
La boxe française, t'es comme dans les brigades du tic.
Ouais,
c'était
ouais,
le truc ridicule où t'es en collant, quoi.
Robert c'est naturel, mais c'était. Mais c'est une belle discipline.
Toi, Barbara, est-ce que tu apprécies le virilisme affiché du président?
Oh là là, où il est là. Non, surtout, j'admire le niveau de. D'autosatisfaction et de je suis beau et je me regarde moi-même, c'est ça qui est fascinant.
Oui, c'est fascinant.
Enfin, demande de communication.
Qui fasse du sport, moi je trouve ça très bien.
Ah ben, moi aussi.
Et on se rappelle que Sarkozy allait courir. Oui. Bon après,
c'est bien
Sarkozy n'avait pas une course de marathonien.
Il se mettait aussi beaucoup en scène. En train de faire du vélo, de courir, Nicolas Sarkozy.
Bon, François Hollande faisait du scooter.
Ben oui.
Et on a au moins un président qui s'entretient. Après, la mise en scène est assez ridicule.
Totalement.
En plus, cet air. Là,
en noir et blanc.
Noir et blanc. Ben, ça, c'est les photos de Soisy de la Moissonnière. C'est toujours en noir et blanc. Alors, l'autre fois, il était de loin avec ses
Qui la suit depuis maintenant quelques années.
Non, ça nous montre quelqu'un qui s'aime.
Donc oui, ça, j'aime beaucoup.
C'était au cas où on n'aurait pas, on ne savait pas qu'Emmanuel Macron s'aimait. Donc c'est bien, il a une photographe officielle qui nous raconte à quel point il s'aime. Et je pense, moi j'aimerais qu'en 2027, on ait un album. Parce que je pense que
photo.
Elle va nous sortir un
les
album.
Les plus belles photos de la présidente.
Les plus belles photos de la présidente.
Un noir et blanc, c'est très beau le noir.
Voilà, et j'espère qu'il terminera à Califourchon sans selle sur un cheval dans la Camargue pour envoyer à Vladimir un petit signe.
On peut imaginer un match tout à l'heure, une coupure entre Frédéric et moi.
Non, mais est-ce que politiquement, c'est important
d'afficher.
Non, mais justement, comment c'est perçu d'afficher quand même un président qui est jeune, c'est le président le plus jeune de la Ve République, mais qui se tient, qui fait du sport. On est dans une année olympique, qui se tient, tu vois, qui fait attention à lui, etc. On a eu des présidents plus bedonnants. Là, on a un président qui a affûté.
Non, mais moi, je vais te dire, je m'en fiche. Hein, moi, je préfère avoir Churchill que d'avoir qui s'est gouverné, pareil, hein. Qui est un espèce de vieil alcoolo qui était dépressif au possible. Enfin,
il buvait du whisky,
voilà, Churchill, il s'entretenait pas, tu vois, non, puis il a su sortir là.
Non, mais c'est l'image, voilà. C'est l'image actuelle qu'on donne, évidemment.
Non, mais moi, je trouve ça.
Mais non, mais c'est ça. C'est
non,
ça,
mais c'est céder à l'air du temps de manière facile, en fait. C'est céder à. Parce que, enfin, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça nous dit qu'il est un peu plus compétent? Peut-être il est boxeur et en même temps président. Hein, peut-être c'est les deux à la fois. Enfin, on ne sait pas. Non, mais ça apporte strictement rien. Et à la fois d'être absorbé par ces réseaux sociaux et se dire l'image que je vais donner, la tête que, enfin, ça devient complètement dingue. J'aimerais qu'il continue à se faire de la boxe. Je trouve ça très bien et c'est très bon pour la santé. Bon, après, s'il a vu une autre politique...
Oui, mais c'est l'air du temps, c'est-à-dire que tout le monde se met en scène sur Instagram, ouais, on se met
oui,
en scène...
Mais oui, c'est la société
avec la bonne communication. La bonne tête...
C'est bien ça, le problème de notre
c'est pas de l'aviron. Je veux dire, tous les hommes politiques en ce moment se mettent à la boxe.
Je crois qu'il
y a cette espèce de tendance au combat, à la boxe.
Il y a un petit appel à Poutine, en fait, ça.
Oui.
C'est du style, je vais rien lâcher.
Donc, ça veut dire que
c'est guerrier. C'est un peu guerrier, il y a un côté guerrier, je pense. Ça a été calculé, je pense.
C'est bien de. C'est totalement. Oui. Ça va résonner à l'extérieur aussi.
Je suis pas sûr que. C'est pas des photos en train de faire du vélo d'appartement.
Non, mais je suis pas sûr que si Vladimir Poutine regarde cette photo, il va être terrorisé au Kremlin.
Oui, mais pardon, alors il faut se montrer un peu viril, un peu. Voilà, pour quand on est un homme.
De toute façon, quand on est en pleine situation de guerre, on
peut
être en train de cueillir des
personnes. Moi, je pense que c'est pas utile de se montrer comme ça, et comme disait Barbara, oui, on peut être Churchill.
Ouais, c'est la photographie en train de lire un bouquin. Ou...
Ah oui, mais ça marche plus, là.
Frédéric.
Non, parce que, en fait, je crois que Emmanuel Macron, c'est mille et un avatar, en fait. Pendant un temps, il voulait nous dire, vous savez, il avait donné une interview à la NRF. On se souvient, la Nouvelle Revue Française, Gallimard, où il nous racontait que c'était un écrivain, etc. Enfin, oui. Presque, il était l'enfant du génie français, ou une phrase comme ça, je me souviens, il y avait une formule. Alors que je crois qu'il a dû un peu épuiser le style, il a fait de la commémoration dans tous les sens, où il aime bien faire des discours lyriques, je sais pas si c'est lui qui les fait. Alors maintenant, il y a une nouvelle version. Donc Macron s'affiche en sportif, faisant de la boxe.
Je pense que Frédéric est un peu jaloux. Bon, je peux le concevoir quand je
vais pas du tout.
Combat, et je pense qu'on le verra peut-être très certainement dans Playboy, par exemple.
Avec des toi, tu te félicites d'avoir un président actif,
bien, c'est jeune, c'est dynamique. Ouais, on est dans un monde de communication. On le voit autrement que toute la journée.
Non, mais qu'il soit sportif, je trouve ça très bien. Faire du sport, je trouve ça très bien. J'en fais, des millions de Français en font, et c'est parfait. Et de la boxe, moi, c'est mon sport préféré. J'adore. Est-ce besoin de se mettre en scène de la sorte de manière un peu ridicule? Non.
Oui, parce que tu peux très bien faire savoir que le président s'entretient, qu'il fait de la boxe, par exemple en posant avec ton entraîneur à côté du sac, en disant en cette année olympique. Tandis que là, il y a la photo de la puissance, de la force, je cogne, tu vois,
moi,
j'y vais
c'est une réponse à Poutine.
Ah ben on en est là.
Ah ben c'est sûr.
Ah ben dis donc. Ah ben je crois que en effet le Kremlin doit trembler hein, parce que les murs doivent être là.
J'attends la photo de Poutine.
Non mais c'est ridicule.
Il y a un moment où les présentateurs à la télévision en kimono.
Tu vois Angela Merkel faire ça toi?
Souviens-toi de ce qu'ont dit les présentateurs russes, tu sais les présentateurs de propagande, ils ont dit Macron on l'écrase, on va le réduire en bouillie, etc. Donc c'est aussi de la com là, tu vois, ça va être relayé. Je suis sûr que la télévision russe va sûrement sur cette fameuse émission où il nous vilipende à longueur de soirée. Je suis sûr qu'ils vont la montrer la photo. Tu peux.
L'offensive de Macron, boum, c'est ça. Cette photo.
Ça va être ça. Nous sommes prêts. Le président est prêt. Bon voilà, ce qu'on pouvait dire sur le chef de l'État. Parlons maintenant de ces commerçants qui veulent afficher les visages des voleurs.
RMC, les grandes gueules.
Tu as volé l'orange du marchand. Non. Tu Gilbert Bécaud. Ça, c'est la version originale.
Magnifique.
C'est pas une nouveauté, hein, ces histoires de visages des cambrioleurs qui sont affichés dans les vitrines ou dans les commerces pour dissuader de revenir voler. Sauf que c'est une pratique illégale et qu'au fil des semaines, au fil des mois, on avance justement peut-être vers une légalisation de la pratique.
Bah, déjà, il y a un constat. Les vols à l'étalage ont progressé de 14% sur un an. Donc, c'est sûr que les commerçants sont exaspérés. Et lorsqu'ils publient les photos des voleurs, en fait, ils récupèrent les photos capturées par leur vidéosurveillance. Et ensuite, ils affichent la photo du voleur dans leur magasin. Bon, en fait, c'est pour démontrer qu'en fait, ils ont une perte de confiance. Je suis désolé, Bruno, mais dans les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'ils estiment que de toute manière, on ne retrouvera pas leur voleur parce que les policiers peut-être n'ont pas le temps, etc. Et que ce voleur, une fois qu'il sera retrouvé, sera peut-être pas forcément beaucoup puni. Et donc, à mon avis, moi j'y vois plutôt un signe de perte de confiance et on se fait justice soi-même. C'est interdit par la loi. Il y a un délit de diffusion des visages qui existe. Et donc, il y a un député MoDem de l'Ain, monsieur Romain Debier, qui veut légaliser la pratique qui consiste donc à afficher le visage des voleurs. S'il y a un collectif également qui depuis des années se bat pour cela, ça s'appelle Ralvol qui a été fondé par un garçon qui habite à Amiens, Jérôme Jean, qu'on connaît bien parce que c'est un fidèle auditeur des Grandes
Gueules. Bien sûr, qui nous appelle régulièrement.
Alors est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il faut légaliser cette pratique?
La loi est recevable,
hein. Oui.
Donc c'est-à-dire, ça c'est une chose, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale va l'étudier, oui, va l'analyser, etc. Oui. Après on va voir si elle va être réellement votée, mais encore une fois il y a 90% quand même des Français qui sont favorables à ça, et moi je suis totalement favorable à ça.
T'es favorable en tant que policier?
Mais bien sûr, non seulement on peut aider peut-être la police, oui, à retrouver les auteurs, ça c'est une chose, et surtout afficher les connards qui viennent embêter voler nos magasins. C'est les gens en ont marre. Tu fais le débat, tu vas au contact des magasins dans Paris ou ailleurs, les mecs n'en peuvent plus. Moi, je pense aux gens qui travaillent tous les jours pour gagner
leur
temps.
Donc là, c'est quoi? C'est un name and shame. C'est-à-dire qu'on nomme et on monte pour faire honte.
Ouais, bien sûr. Oui, mais, alors, on va nous parler, évidemment, certains partis politiques vont nous dire la liberté, c'est une honte d'afficher.
Présomption d'innocence.
Moi, je m'en fous.
Il y a des
avocats qui
parlent d'une dérive, là.
Mais oui, le monde, oui, voilà, dérive, on va devenir une dictature, effectivement. Mais non, moi, je dis encore une fois, il faut pas avoir peur de mettre en avant ces mecs-là et puis les dénoncer, tout simplement.
Moi, je pense que la question, il faut l'aborder dans deux sens. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que dans le monde anglo-saxon, est-ce qu'il y a moins de vols? Est-ce qu'il y a moins de vols à l'étalage? Est-ce que ça marche véritablement? J'en suis pas entièrement convaincu. Donc, est-ce que faire ça, est-ce que ça dissuade? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, avec des statistiques, vérifier que tous les pays qui pratiquent ça ont vu le taux de vol s'effondrer? Si on raisonne en termes purement d'efficacité et ça se vérifie, bon, il faut voir si ça a marché ailleurs, peut-être ça peut marcher chez nous. Mais il faut encore s'assurer que ce qui a l'air du bon sens fonctionne dans les faits. Parce qu'il y a des choses qui ont l'air comme ça du bon sens, mais peut-être que ça marche pas du tout. Donc ça, c'est un. Deux, il y a toujours le même problème, c'est-à-dire comment concilier à la fois la protection des citoyens, des biens, des personnes, et en même temps rester dans le cadre d'un état de droit. C'est-à-dire faire en sorte que même si quelqu'un vole et que c'est condamnable par la loi, ça reste quand même quelqu'un...
C'est un voleur.
C'est un voleur, oui, mais un voleur...
C'est un délinquant, ça s'appelle.
Oui, c'est un délinquant, mais un délinquant a droit à un procès, droit à la présomption d'innocence, et ainsi de suite.
A droit à la protection de son image?
Mais alors là, ça ouvre un débat. Mais ça ouvre un vrai débat, parce que nous sommes en train de devenir, dans plein de domaines, des Américains. C'est-à-dire qu'en fait, quand on observe l'évolution de notre société dans plein de domaines, dans les rapports de genre, dans toutes sortes de choses, nous sommes devenus de plus en plus américains et on regarde le monde anglo-saxon comme un monde peut-être dans lequel il faut puiser des références. Alors, je dis pas que c'est un mal, je dis pas le monde anglo-saxon, j'ai rien contre lui, mais avant de se précipiter dans des solutions, il faut un peu réfléchir.
L'efficacité, Barbara.
Ouais.
Moi, je pense que si ça peut avoir un effet dissuasif, notamment sur les jeunes, notamment les jeunes mineurs, je pense que c'est une très bonne idée. Ça ne dissuadera pas le voleur, alors évidemment le kleptomane encore moins, mais le voleur qui est pathologique et qui de toute façon n'a pas appris les codes et les règles et qui est un délinquant, donc il ira voler ailleurs. Mais enfin déjà, le commerçant qui affichera les images du flagrant délit, parce que ce sont des images filmées, qui sont vérifiées, parce que dans le cadre de la loi, il y aura une vérification, parce qu'il y aura une enquête qui aura été ouverte, et donc on n'affiche pas comme ça, à la volée, n'importe qui. On affiche les gens qu'on a pris en flagrant délit. Donc, la présomption d'innocence sur un flagrant délit, moi je veux bien, mais enfin, il y a quand même quelques limites. Là-dessus, je pense que ça peut au moins avoir un effet. Le voleur en question ne reviendra plus voler dans le même magasin, certes, il ira ailleurs, Mais si chaque magasin le fait, bah, il finira bien par épuiser le stock. Il ira voler encore ailleurs. Et si c'est vraiment généralisé, bah, peut-être qu'à un moment donné, bah, ça le calmera. Et c'est surtout qu'à un moment donné, la police réussira peut-être à le stopper. Mais surtout, je pense que ça peut avoir un effet dissuasif sur les jeunes, parce que tous les jeunes, à un moment ou à un autre, vers 15, 16 ans, à un petit coup, allez, je vole un petit truc, je vole un petit, les filles, je sais pas, je vole un petit rouge à lèvres, les garçons, excusez-moi, c'est très,
il a déjà fait,
très classique.
C'est très genré.
Très genré.
Il y a des filles qui volent aussi.
Oui. Hein?
Il y a des filles qui volent.
Bah oui, des filles qui volent, des garçons qui volent, bah bien sûr. Mais c'est même un petit truc de transgression quand on est ado. Oui, et je me dis que, bah, de toute façon, ça ne se fait pas. Donc, s'il peut y avoir quelque chose qui est dissuasif et préventif, pourquoi pas, ça ne me dérange absolument pas.
Ça ne sert en rien à attraper le voleur.
Non, ça ne sert pas à attraper le voleur.
Cette image, les policiers l'ont aussi. Donc, l'afficher, ça ne change rien. Ça dissuade.
Ça dissuade les autres.
Ça met la honte.
Mais ça fout la honte.
Oui, ça fout la honte.
C'est une forme d'autodéfense.
De toute façon, on ne peut plus mettre la honte à personne.
Non, mais on vient de plus en plus à une forme d'autodéfense dans notre société, hein, c'est clair.
Oui, non, mais
les gens, je dis pas que la police, tout à l'heure, t'as dit quelque chose, Olivier, qui
m'a
pas plu.
Moi, je pense que c'est quand même un geste de méfiance. Enfin, pas
vis-à-vis
de méfiance.
De la police.
Oui, je pense que ces commerçants sont désabusés et en colère. Ils font ça parce qu'ils disent finalement, il va rien se passer. Moi, je pense quand même
que. Non, ça peut aider.
C'est une illustration de la crise des institutions.
Oui, c'est ça.
Eh bien, écoute, on va continuer d'en discuter avec vous au 32-16. Donc, cette proposition de loi pour légaliser l'affichage du visage, de la silhouette du voleur dans le magasin. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce que c'est une bonne chose? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC.
L'heure midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avant de continuer notre discussion sur l'affichage des photos des voleurs dans les commerces, je vous rappelle que vous avez l'expérience RMC à tenter pour tous les amateurs de football et de Ligue des Champions en particulier. Allez assister au match PSG-Barcelone le 10 avril prochain au Parc des Princes. Dès que vous entendez ceci, eh bien vous envoyez PSG par SMS au 732-16, PSG par SMS au 732-16. Et si vous êtes tiré au sort, vous avez la visite des studios RMC avec la rencontre des équipes des sports et puis des équipes de tous les shows d'RMC. Ensuite, vous allez au parc vivre le match et vous commentez l'après-match avec les équipes de l'After, Gilbert Bribois, entre autres, et Daniel Riolo, bien sûr. Donc, tentez l'expérience RMC en envoyant PSG par SMS au 732-16. On revient à notre discussion sur l'affichage des photos des voleurs. Sonia est avec nous. Bonjour, Sonia.
Bonjour, les grandes gueules.
Bonjour.
Vous nous appelez de Blois, dans le Loir-et-Cher.
Oui,
est-ce que vous pensez qu'il faut légaliser cette pratique?
Ah bah tout à fait, parce que je vois pas pourquoi on le ferait pas. Si ça peut aider les commerçants à endiguer un peu les vols, je pense qu'ils sont un peu désabusés, notamment parce que bon, certainement ils se font arrêter, les voleurs, et ils sont relâchés quelques jours plus tard. Mais après tout ce qui est droit à l'image, je vois pas pourquoi on l'interdirait, parce que c'est comme quand on fait des vidéos, je prenais l'exemple des réseaux sociaux par exemple, on fait des vidéos qui sont balancées sur les réseaux, mais en même temps, est-ce qu'on demande aux personnes qui sont aux alentours le droit à l'image, leur autorisation?
C'est vrai.
Non. Alors j'ai envie de dire que je vois pas pourquoi on mettrait pas ces voleurs à l'affiche.
Et en plus, on est sympa parce qu'ils veulent mettre quand même un panneau rond, en disant que, attention, vous êtes filmé, hein, sur le
projet. Oui, voilà, donc en même temps, c'est affiché,
de toute façon, c'est
clair pour tout le
oui,
monde.
Oui, mais au moins, voilà, on les met en garde déjà. Donc.
Est-ce que c'est efficace? Vous pensez vraiment que ça va dissuader les voleurs de recommencer?
Alors, peut-être, j'ai envie de dire peut-être plutôt sur les vols qui ne sont pas de produits de première nécessité, parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence entre les voleurs qui volent des petites choses dans les pharmacies, des petits produits pour les beautés ou des choses technologiques, après des fois qu'ils peuvent revendre. Mais après, sur les gens, par exemple, qui font des vols dans les magasins, qui notamment, c'est plus pour se nourrir, je ne sais pas si ça va dissuader réellement, mais ça va peut-être aider, parce que quelqu'un qui vraiment vole parce qu'il est dans le besoin, je ne sais pas si ça dissuadera. Après, voilà, ça sera peut-être plutôt les petits vols pour revendre, pour faire un peu d'argent, ou les petits produits de beauté, les trucs comme ça, quoi.
Ouais, mais on voit bien que c'est hyper incertain comme mesure. On sait pas, ça va dépendre des gens. Après, on vit avec une idée que parce qu'on fout la honte à quelqu'un, ça y est, il va se dire, je vais pas voler, je vais être gentil.
Oui, mais les commerçants ne peuvent pas individuellement chacun prendre un vigile ou non, payer des sociétés de sécurité, si tu veux, qui soient là à patrouiller. Que ce soit quand tu as ton pas de porte qui est directement sur la rue ou quand tu es dans un grand centre commercial. Et on a régulièrement eu aussi des gens qui sont dans les centres commerciaux et disent quand tu arrives le samedi, et des fois certains ils sortent le portant. Tu sais, ils sortent le portant devant le commerce pour appâter un peu le chaland, où tu mets quelques chemises, quelques blousons. Bon, ben, quand t'as un employé, que toi, t'es dans la remise ou un seul employé, tu sais, ça va vite. Hein.
Les salaires après qu'il faut payer, voilà, c'est pareil.
Ben oui, bien sûr.
À chaque fois, quelqu'un à côté, c'est aux gens de se responsabiliser. Et puis, les gens, c'est à eux de faire attention à ce qu'ils font. Moi, je trouve qu'il faut de toute façon l'autoriser. C'est ce que je dis, de toute façon.
Sonia, aujourd'hui, vous voulez un peu, enfin, tout le monde, où on se prend en main ou un tour de vis, un peu plus de sécurité, quoi, Sonia.
Oui, de toute façon, comme pour plein de domaines, hein. De toute façon, il n'y a pas que pour le vol. Je pense que vraiment, les commerçants en ont marre et à juste titre. Ils travaillent aussi pour ça. Ils ont des employés à payer. Donc, si en plus, ils subissent des vols tout le temps et que c'est, en augmentation, forcément, au bout d'un moment, il y en a qui vont plus pouvoir. Il y a des petits commerçants, des fois, ils peinent à faire les fins de mois et à vivre. Donc, si en plus, il y a des vols,
vous avez raison, aucune indulgence. Mais je trouve que Frédéric, ensuite, je te trouve quand même.
Faut tout, et je pense que c'est sur le
sujet quand même.
Je
suis obligé de t'attaquer un peu.
Sonia, vous serrez la vis pour trouve que trop de gentillesse dans ce monde.
Ouais, il est trop gentil, Frédéric.
Non.
C'est un gentil.
Le commerçant qui est sujet à ça, sans arrêt.
Qui te pète la gueule à
point quand même. Je vais lui péter là.
Non, mais il y a toujours l'histoire des 10 balles et tu veux me donner 5 balles pour mon café, mon croissant, j'y compte bien.
Non, mais c'est parce que Frédéric, il pense en termes d'efficacité sur le vol en général. Mais un voleur, tu n'arrêteras pas les voleurs, de même que tu n'arrêteras pas les criminels. Néanmoins, rester les bras ballants devant la hausse continue des actes de délinquance dans le pays.
Dire, 14% si on est, de plus voilà, de vols à l'étalage.
Si on était dans un pays où on n'a pas 120 attaques au couteau par jour, 14 000 refus d'obtempérer, l'augmentation des cambriolages, l'augmentation des vols. Je veux dire, on est dans un pays qui, excusez-moi, mais en ce moment subit, et ce sont les petites commerçants, les particuliers qui sont dans leur petite, c'est les classes moyennes et les classes populaires qui subissent ça. Je suis navré, c'est pas les gens les plus à un moment donné, on vit dans une société où la délinquance et la criminalité augmentent. Donc, bien sûr, l'efficacité, elle sera peut-être pas là, mais au moins, je préfère encore l'affichage que le moment où certains commerçants vont commencer à se faire justice eux-mêmes et s'armer.
Merci Sonia d'avoir été d'ailleurs là.
C'est peut-être la dernière étape.
C'est la dernière.
Frédéric, écoutez, Stéphane,
une chose, parce qu'effectivement, c'est pas que je veux défendre le camp des gentils et que je veux laisser les classes populaires se faire piller par des hordes de voleurs. Mais j'ai bien compris qu'on Attila et les barbares arrivent, les uns sont dans la ville, etc. Je sais très bien, et avec des cimetières et compagnie. Bon, donc j'ai bien compris qu'il en était ainsi. Non, mais simplement, c'est plutôt inquiétant d'un truc, c'est-à-dire que si tout ça augmente et que nos institutions n'y répondent plus, que la police ne peut plus faire son boulot ou la justice, j'en sais rien,
c'est
étant compris.
Pas qu'elle fait pas son boulot, la police.
Je dis pas qu'elle le fait pas, mais enfin, où elle manque de moyens, où c'est difficile de le faire d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me préoccupe, c'est à partir du moment où il ne reste plus que du bricolage. On va mettre des photos, certains vont s'armer, d'autres vont faire des milices personnelles.
Ça s'appelle la tiers-mondisation.
Et ça, c'est ça qui m'inquiète, parce que on derrière l'efficacité, moi, c'est la question des institutions qui est derrière.
On va prendre deux cas concrets avec Stéphane et Frédéric. On va aller du côté de la Haute-Garonne et du Pas-de-Calais, mais on va commencer avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va Stéphane. Mettez-vous bien près du téléphone, qu'on vous entende fort et clair.
Vous m'entendez mieux?
Ouais, parfait. Vous êtes gérant de restaurant et vous témoignez parce que vous avez été voleur et volé.
Ah bon? Ah, tout à fait. voilà, donc avant de bosser en restauration, je travaillais en grande distribution dans un grand hypermarché de Toulouse. Et j'ai eu des soucis d'alcool, tout simplement. Et j'ai volé une bouteille pendant mon temps de travail et je me suis fait attraper.
Ouais.
Tout bêtement. Donc j'ai été mis à pied puis après licencié pour ça. Et d'un autre côté, j'ai aidé à attraper plusieurs voleurs qui volaient du matériel high-tech, notamment en les planquant dans des paquets de lessive ou en les planquant à droite, à gauche. Donc voilà, j'ai été des deux côtés et je peux comprendre largement que des commerçants veuille afficher les photos de voleurs parce que c'est, pour moi, ce serait ultra dissuasif, quoi. Moi,
je sais. Ce serait dissuasif? Si on vous avait mis à l'époque votre photo, comment vous l'auriez pris?
Ah ben, j'aurais déjà eu hyper honte, voilà, parce qu'à l'époque j'étais papa et tout ça, donc oui, j'aurais eu hyper honte, et puis je trouve ça ultra dissuasif, quoi. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, de tous les voleurs, hein, je pense que.
Mais vous-même, vous avez été volé ensuite parce que maintenant vous êtes gérant de restaurant, c'est ça?
Non, mais c'est quand je travaillais en grande distribution. D'accord. En fait, on voyait tous les jours. Hein.
Ah oui.
On avait des gens qui volaient tous les jours. On en a attrapé plein qui volaient.
Mais ces gens,
alors justement, ils volaient quoi justement?
Mais du matériel high tech.
Voilà, ils volaient pas de la nourriture pour se nourrir parce qu'ils étaient affamés.
On en a attrapé certains qui volaient de la nourriture et ceux-là, j'aurais. Ceux qui volent à la limite parce qu'ils n'ont rien à bouffer.
Vous auriez l'indulgence, ouais.
Voilà. Mais par contre, voler une play en le planquant dans un paquet de cives, c'est zéro tolérance.
Que se passe-t-il ensuite? Vous savez, s'ils sont condamnés, il y a des sanctions
Alors, je sais qu'il y a des interdictions de magasins. Parce qu'ils sont attrapés la première fois, normalement, ils doivent régler leurs achats. Et après, ils ne sont pas embêtés. Et s'ils se font re-attraper, c'est interdiction de magasin, quoi.
Ils ont les moyens quand même de payer leur achat, alors?
S'ils peuvent, ils le font. S'ils peuvent pas, on garde la nourriture ou tout, et puis on les laisse repartir.
Il n'y a pas de plainte? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de plainte automatique?
On en posait, mais les policiers ne venaient pas tout le temps, quoi.
Ah, c'est impossible, il y en a tellement. C'est terrible à dire, mais
d'où cette envie chez certains commerçants de se faire justice.
Oui, mais en même temps, après, c'est de la négociation, tu vois. Le directeur du magasin, il te prend à part, il te dit bon, allez, vous payez, puis terminé. C'est ce qu'ils font la plupart du temps, d'ailleurs. J'ai plein d'amis.
Tout à fait. C'est complètement ça, oui. La plupart du temps, c'est vous payez, et puis on passe l'éponge.
Moi, je pense que, alors, vous allez me dire que je suis vraiment sévère, mais pour les mineurs, par exemple, je pense qu'il faut à chaque fois. Une plainte adaptée, mais il faut une plainte à chaque fois. Parce que si, dès le premier vol, quand on est mineur, on vous fait juste le petit rappel à la loi et on appelle maman, et puis maman, elle va payer et tu rentres à la maison. Je suis désolée, c'est pas dissuasif.
Oui, mais Barbara...
Un adulte, bon, on n'a pas le temps de porter les plaintes, etc. Puis vous voyez bien que vous avez affaire à quelqu'un qui risque de recommencer. Mais un mineur, dès la première fois, il faut une plainte. Et il faut aller passer deux ou trois petites heures au commissariat. Je sais que ça peut perdre du temps à la police.
Barbara,
oui, mais ces deux, trois heures-là que tu perds avec le jeune qui fait son premier acte de délit, c'est peut-être des dizaines d'heures que tu perdras pas plus tard.
Sur les primo-délinquants, mais généralement, ils sont très connus dans les magasins.
Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Allez-y.
Une dernière chose, notamment pour avoir bossé dans un gros hyper, c'est extrêmement usant et chronophage de gérer tous les voleurs parce qu'on avait, et je pense que beaucoup de gens de la grande distribution s'y reconnaîtront là-dedans, pour écrire des livres et des livres sur toutes les incivilités de tous les jours. Si on devait tout gérer tout le temps, on ne mettrait plus en rayon, vous auriez les rayons vides, on serait toujours en train de gérer les incivilités des clients, quoi.
Stéphane,
on va écouter un autre témoignage, celui de Frédéric, qui est donc dans le Pas-de-Calais, qui est gérant de supermarché. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Donc vous y êtes confronté, j'imagine.
Oui. Alors, 25 ans dans un supermarché, voilà, donc j'ai fait toute ma crème là-dedans, et je peux vous assurer que tout ce que j'entends depuis vos débats, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on sent qu'il y a un manque de connaissance du sujet. Moi, j'ai appelé pour une chose, principalement par rapport à la diffusion vidéo. Alors, faut savoir que depuis 25 ans, nous, on a été confrontés par une multitude de vols depuis des années. Et une fois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on a eu deux personnes qui ont volé énormément d'alcool dans le magasin. Et étant en colère, je me suis dit, bon allez, tant pis, je diffuse. La seule fois que je l'ai fait, c'est la seule fois que j'ai pas respecté la loi. J'ai diffusé sur un réseau social et j'ai mis un petit message gentil en demandant de l'aide à si des clients... connaissez ces personnes, voilà, des gens qui pouvaient m'aider. 24 heures, ça m'a pris 24 heures pour avoir l'identité de deux personnes et l'endroit où ils se crèchaient. 24 heures. Ça m'a permis de déposer plainte, de donner l'identité des personnes à la police qui était ravie qu'ils les ont retrouvés.
D'accord.
Et qui m'ont confirmé qu'ils les cherchaient depuis plus de 6 mois.
Ah oui, voilà.
Donc, en 24 heures, en affichant les deux photos, vous les avez retrouvées là où la police mettait 6 mois, quoi.
Tout à fait. Ils squattaient dans un jardin, c'est leur papa, pour tout vous dire.
Donc, finalement, le fait que vous soyez pris en main et que vous aviez fait votre enquête vous-même, ça a été plus efficace, quoi.
Ah, complètement. Ça
n'a rien à voir.
Oui, mais la police est cherchée pour d'autres faits, sûrement. Hein.
Donc, ouais. Voilà. Oui, bien
là,
sûr,
ça,
bien sûr.
Ça a corroboré et ça a permis de dire, tiens, on les a, ça y est.
En fait, ça a fait avancer oui. l'enquête d'une manière...
Donc, vous êtes, il faut qu'on légalise cette pratique, c'est ce que vous dites.
Ah, mais moi, je suis pour depuis des années. Et j'insiste aussi sur ce que j'entends, sur... Et dans ceux qui volent en magasin, j'entends parler de personnes qui viennent pour voler de l'alimentation parce que ils crèvent de faim. Là-dessus, nous, on est avant tout humains et commerçants et on comprend très bien, on peut très bien comprendre humainement que quelqu'un qui crève de faim, qui vole un steak pour manger, on va pas aller en rajouter. Là, on parle vraiment de gens qui viennent piller les magasins et comme votre prédécesseur disait, c'est chronophage et usant. Mais on ne ferait pratiquement que ça.
Mais ça a marché en ce qui vous concerne, Frédéric. Je vous remercie d'avoir été avec nous. L'exemple de Frédéric, gérant de supermarché dans le Pas-de-Calais. 24 heures, hein, il a fallu pour élucider et trouver ces voleurs, simplement en postant la photo et en demandant un petit coup de main aux réseaux sociaux. Alors, afficher les voleurs dans les magasins, on en a discuté, on en a parlé, on a posé la question, nous aussi, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la solution ? Voilà. Sans appel, oui, 86%, plus de 86%.
Sur tous ces sujets, quand même, de sécurité, on se rend compte que maintenant, on est à des scores, je dis, de 85%.
On verra si la proposition du député Daubier est adoptée. Ouais.
Si ça peut aider nos policiers dans leur travail de recherche.
Moi, j'étais sûr qu'on allait avoir des pourcentages pareils. Hein.
Allez, dans un instant, on s'en fout, pas. Les petites news de l'actualité relevées par notre productrice Anaïs Sainz et on verra ce qu'en disent les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, on a deux profs avec nous. Un professeur d'économie, c'est Frédéric Farin. Une professeure d'histoire-géographie, c'est Barbara Lefebvre.
Et une brute.
Et on a Nono la Savate.
Et Nono la Savate.
Nono la Savate qui est avec nous. Bruno Pomar, l'ancien policier du RAID, le maire de Belfloux dans l'Aude.
Brute sur patte.
Ouais, une brute.
Nos sujets.
Il est bon et parfois truand.
Nos sujets de discussion tout à l'heure, qui vous vaudront d'appeler au 32-16, ce sera, vous avez vu, des piscines non déclarées. Le fisc qui part à la recherche de la fraude fiscale et les piscines ont déclaré.
C'est énorme, hein.
140 000. Ouais. C'est dingue, ça.
Alors, je crois que la France est l'un des pays au monde où il y a le plus de piscines par habitant.
Et là, ouais. On a le moins d'eau.
Voilà.
Non, on a quand même encore de l'eau.
Donc, on en parlera tout à l'heure.
De marine au fond de la piscine.
Je sais pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont fait les piscines non déclarées? C'est le moment de venir vous confesser en direct au 32-16. En attendant, on fait le on s'en fout, pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. On respire mieux en France, Barbara.
Ah oui ?
Eh oui, oui. Plus besoin des ZFE, ces zones à faible émission censées bannir les véhicules des villes. Le gouvernement, les véhicules les plus polluants, bien sûr. Le gouvernement a annoncé l'abandon de cette mesure dans 40 villes de France. Seuls Paris et Lyon restent concernés, ce qui représente quand même 1,5 million d'automobilistes. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Bruno Pomar.
Non, on s'en fout pas, non. Ça concerne beaucoup de gens.
Frédéric Farin.
On ne s'en fout pas.
Et Barbara Lefebvre.
On ne s'en fout pas.
Mon cher Bruno, pourquoi on s'en fout
pas ? Ça ne va pas faire plaisir à Barbara, mais encore une fois, moi je m'en suis toujours pris à cette mesure parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer des bagnoles, entre guillemets, normales ou écolo, ou je ne sais pas comme tu as, Barbara, d'ailleurs. Tu as une voiture électrique.
Ouais, j'ai une voiture électrique.
Voilà. Et il y a plein de gens, moi je vois dans ma commune et dans tout mon secteur d'Occitanie, ben, il y a plein de gens qui ont de vieilles voitures parce qu'ils ne peuvent pas les remplacer. Donc cette mesure, je trouve que
c'est une bonne chose. Elle était antisociale.
Totalement antisociale, ouais, tout à fait. Oh. Alors il y a que Paris où il y a tous les bobos écolos qui évidemment se baladent en vélo électrique. Mais oui, c'est la vérité. Ou en voiture électrique comme toi, ma chère Barbara. Mais effectivement, je trouve que c'est pas normal.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des villes qui résistent. Strasbourg veut maintenir sa zone à faible émission. Paris, Lyon. Cette ville est dirigée pour la plupart par des écolos, oui, mais ailleurs, on voit bien quand même que le gouvernement sentait le truc très explosif socialement.
Mais ils s'en foutent.
Parce qu'en fait, ça touche surtout les gens qui habitent en banlieue.
Bien sûr.
Excusez-moi.
Mais les écolos s'en foutent.
C'est une diminution de la pollution, en fait. Ils sont.
Il vaut mieux qu'on soit sur cette tendance quand même.
Oui, mais la ZFE n'a pas un impact. Le véritable impact, c'est ce qu'ont fait les constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'ils nous vendent des voitures qui sont de moins en moins polluantes. C'est ça qu'il faut dire.
Précisément, les voitures concernées, il faudrait juste quand même dire le profil des voitures concernées. Des diesels de 14 ans et des essences de 19 ans.
La vieille camionnette.
Non, non, mais donc, excusez-moi, vu l'âge des bagnoles en question, 14 ans et 19 ans, on n'est pas déjà sur les nouvelles constructions des véhicules qui sont moins polluants. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, j'entends bien ce que tu m'expliques, mais pour moi qui ai ramené une vieille voiture chez un concessionnaire qui a été reprise à l'Argus et qui m'a permis d'avoir un petit bonus supplémentaire pour pouvoir prendre LOD, je sais plus quoi là, comment ça s'appelle, en leasing quoi.
LOA.
Ouais, LOA, voilà. Une voiture électrique que je paye pas cher, d'accord, par mois. Donc je veux bien, et je dis pas électrique, on peut prendre une hybride, on peut même prendre une essence. Aujourd'hui, tu as des offres qui sont faites entre le bonus écolo, le fait que tu ramènes ta vieille guimbarde et que tu payes un loyer qui va pas être énorme et extrêmement élevé. Je pense que les gens pourraient avoir une voiture un petit peu moins polluante qu'un diesel de 14 ans et une essence de 19 ans. Voilà. Donc ne nous excitons pas non plus. Les ZFE, c'est pour des vieilles voitures polluantes. Tu as un diesel qui a 5 ans, t'es pas concerné par les ZFE. Donc attention, on se calme. Mais vous êtes parti sur l'histoire des bobos machin. On parle de vieux véhicules. On parle de vieux véhicules hyper polluants. Je suis désolé. C'est normal qu'on les laisse plus sur les routes.
Les gens n'ont pas les moyens de les remplacer.
Et tu sais, regarde, Barbara, je te donne l'exemple de mon frère.
Excusez-moi,
il est retraité des travaux publics. Il gagne 800 euros par mois.
Oui.
Il a une vieille Renault qui a 300 000 bornes. Ben, explique-lui ce que tu viens de me dire.
Mais d'accord, mais
il va te dire, je ne peux pas me payer une bagnole.
J'entends bien, mais des cas
frère,
comme ça.
Il y en a des millions.
Oh, des millions, en
exactement. Mais si, Barbara.
C'est logique.
Oui. Regarde les centrales d'automobiles, crois-moi que tu trouves des voitures pour
ça. Oui, mais qui vont disparaître, puisque les ZFE, ça doit monter en puissance. On va commencer par le critère 3, ensuite le critère 2. Donc on rentre dans une spirale, où bientôt, effectivement. Mais oui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait que des véhicules électriques dans les centres-villes, bien sûr.
Moi, je ne suis pas pour le tout électrique, mais je ne suis pas non plus. Je
ne
suis pas pour le tout électrique, mais je ne suis pas non plus pour qu'à chaque fois, on tombe sur le dos des écologistes. C'est nécessaire aussi d'avoir des
moins
de pollution
de l'air.
Bon, juste très rapidement, je rappelle que la France là est très contente parce qu'en termes d'émissions de CO2, elle a fait beaucoup mieux donc cette année. Donc alors peut-être que le gouvernement se réjouit de cette bonne nouvelle et qu'on se dit bon, c'est peut-être moins nécessaire d'insister là-dessus. Mais je pense que la vraie question, c'est pas de savoir si les écolos sont gentils ou sont pas gentils, c'est comment faire pour que ces changements soient acceptables socialement dans un cadre où le pouvoir d'achat des Français est contraint, où beaucoup de gens sont obligés effectivement de vivre avec de vieux véhicules. Et tant qu'on ne rendra pas cette affaire acceptable socialement, ce sera accepté par personne.
Voilà.
Donc
ça,
en fait, le truc, c'est que en fait, la question écologique, c'est une question sociale. Et tant qu'on l'a pas compris et qu'on pense qu'on va être dans des fantaisies diverses ou variées, personne n'en voudra.
Tiens, on enchaîne. On reste sur les routes, ou plutôt dans les rues de la capitale, à 4 mois des JO. Oui. Au grand dam des commerçants et des automobilistes, toujours plus de 6000 chantiers sont en cours à Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ils ont 4 mois pour les terminer.
Non, on s'en fout vraiment pas.
Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, pas du tout.
Alors, 6366 chantiers précisément, des chantiers censés tous être terminés au 26 juillet, date de l'ouverture des JO de Paris.
Pourquoi tu t'en fous pas, Frédéric?
Pourquoi je m'en fous pas? Parce que je pense qu'on va vers des JO, et c'est pas que je m'en réjouis, mais qui vont être bordélico-catastrophique.
Tu penses que ces chantiers ne seront pas finis en temps et en heure?
Non, pas que je sois spécialiste de la construction ou autre, mais quand même 6000, c'est quand même énorme. Et quand on voit dans tous les domaines, et la question de la circulation, la pollution de la Seine, les chantiers en cours, je crois qu'on s'est raconté beaucoup, beaucoup d'histoires.
Vous n'avez pas confiance aux gens compétents que nous avons à Paris, au COJO, qui nous promettent que tout sera fait en temps et en heure?
Bah, écoute, je crois que je vais avoir une position très française. Descartes nous a dit, il faut douter. Donc moi, je doute comme un fou. Voilà.
Mais par ailleurs, en plus des chantiers, il y a des inquiétudes, notamment, par exemple, sur la question de tout ce qui est équipement technologique qui a été confié à la société Atos. C'est très bien de le donner à une société française.
Qui va pas très bien.
Mais qui va très mal.
Oui.
Et notamment qui s'occupe de toute la cybersécurité
la
autour des JO.
La société de M. Breton qui est aujourd'hui commissaire européen.
Ouais, et ben apparemment, c'est la catastrophe. Il y a des contrats qui se terminent, qui ne sont pas renouvelés, et il y a énormément d'inquiétudes sur la bonne santé d'Atos pour assumer aussi pleinement les JO. Donc je pense qu'effectivement, la situation est un petit peu... Mais enfin... Monsieur Macron, au pire, montera sur le ring et nous sauvera. Donc.
Mais c'est la situation, moi, un cas concret, hier encore, je partais de rue Saint-Honoré en scooter. Et pourtant, je me faufile facilement. Même en scooter, j'arrivais pas à progresser pour aller dans le Val-de-Marne. Ça a été une galère sans nom.
Un scooter qui a 19 ans?
Non, c'est un dernier modèle Piaggio, un truc, excusez-moi de donner les marques, mais le top.
Et t'as mis combien de temps ?
Pour aller sur Vincennes, j'ai mis 40 minutes, alors que habituellement je te mets 20 minutes.
À cause des chantiers ?
Mais c'était, mais c'était oui, infernal. Les chantiers sont partis, mais c'était infernal. Okay, les gens, ça gueulait dans les bagnoles, c'est tu imagines Paris, hein. Même pas. Il y en a marre.
Quand tu es en surface, ça colle pas. Quand tu vas en sous-sol.
Oui, pour éviter ça, tu dis moi,
c'est
je prends le métro.
Mieux non plus.
C'est insupportable.
Tu prends la ligne 8, t'en peux plus.
Ça fait peur. Hein.
À la ligne 8, c'est allez, en fait pour Anaïs, tester nos nerfs, en fait.
Vas-y. Bah,
les GG, j'ai un dernier, on s'en fout pas, mais j'ai décidé de procrastiner ce matin.
Je traîne un peu. Procrastiner.
Alors, qu'est-ce que c'est
procrastiner.
Je vois là Olivier en panique parce qu'il reste 3 minutes de chrono. Bah oui, comme 9 dirigeants sur 10, selon un sondage IFOP, alors qu'on pense trop souvent que finalement ce sont les salariés qui travaillent en dilettante, eh bien non, 90% des dirigeants remettent au lendemain les tâches du jour. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara ?
Les managers, tu veux dire ?
Oui, les managers, les directeurs, les dirigeants.
Non, on s'en fout pas, c'est bien.
Vous en foutez pas. Alors, vous êtes.
C'est bien.
Est-ce que vous êtes du genre à procrastiner un petit peu ?
Qui procrastine ?
Procrastiner. Est-ce que tu reportes au lendemain tes décisions ou pas ? Disons, on verra demain.
Ouais. Comme j'ai beaucoup de choses à faire, oui, effectivement.
Barbara,
je suis pas chef d'entreprise, mais oui.
Ah, moi, je suis trop
angoissée. Tu dois être l'inverse.
Ah non, moi, je suis trop angoissée, trop carré. Si tout n'est pas rangé et que fait à la minute près. Et du coup, je stresse les gens autour de moi. Je leur dis, mais tu l'as toujours pas fait ? Non, parce que moi, je me dis toujours, on sait jamais. En plus, si ça se trouve, demain, je serai peut-être morte. Alors je me dis, vaut mieux que je le fasse.
Vivre heureux comme
non, mais... si je me fais renverser par le scooter de Nono à Savate.
Je procrastine et je me suis toujours promis que si un jour j'écrivais un roman, il aurait pour titre En retard.
Pourquoi tu procrastines ?
Pour une raison très simple.
Parce que tu le sais et tu le fais délibérément.
Oui.
Pourquoi ?
Mais parce que cette façon de narguer un peu le temps et de jouer avec lui, ça m'amuse.
Tu corriges tes copies en retard ?
À mort.
Moi, alors là, je peux vous dire.
Où va l'éducation nationale encore ?
Alors là, les copies, moi, elles sont corrigées. Des fois, même les élèves, ils sont étonnés. Hein. Des fois, 24-48 heures, paf, ils ont.
Avant qu'ils fassent la copie, c'est corrigé.
À l'école, moi, j'attendais toujours le dernier moment pour réviser.
Ma fille est comme ça.
Et il y a une expression que j'aime beaucoup d'un écrivain français qu'on a oublié, qui était Claude Roy, qui disait : je ne rêve pas d'un passe-temps, mais d'un dépasse-temps.
Mais là, ce qui est
pas mal.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est les managers.
Mais c'est les managers.
Alors, les managers, est-ce que c'est parce qu'ils veulent prendre le temps de la décision ?
C'est pas très rassurant.
Oui. Je vais vous dire, c'est par démotivation pour la plupart d'entre
eux aussi, ça tombe bien.
Selon ce sondage, et aussi en raison de la surcharge de travail, bien sûr, évidemment.
Oui, mais tu sais, c'est les deux phénomènes au travail. Il y a le burn-out et le bore-out. Il y a le burn-out, on n'en peut plus, on stresse, et bore-out, on s'emmerde.
Oui, mais est-ce que aussi, par exemple, pour les papiers administratifs?
Oui.
Plutôt du genre, attends le dernier moment.
Ah oui, moi aussi. Il est des champions du monde là-dessus.
C'est l'enfer.
C'était comme l'ancien ministre Thévenoud.
Thévenoud. Comment on appelait ça?
La phobie
administrative.
Je pense qu'il y a plein de Français qui ont ça. Et qui, tu sais, qui accumulent. Et puis, c'est la pensée magique. Ça va se régler tout seul.
Même pour les impôts, tu prends les 10% supplémentaires et après tu pleures. Tu dis,
justement, c'est parce que vous comprenez pas que c'est comme ça que vous allez économiser du temps en le faisant tout de suite.
Tu économises de l'argent.
Vous le faites tout de suite, vous économisez du temps.
Et de l'angoisse, parce que tu as pas. Merde, j'ai pas fait ça.
Non, parce que quand t'es angoissé, tu angoisse pour autre chose.
Mais après, c'est bien aussi de répartir son énergie. Et parfois, quand tu dis, bon, allez, c'est fini, ça, c'est demain, ça, et tu souffles.
Vous avez entendu le mantra
d'Anaïs.
Ça s'appelle la répartition de l'énergie.
Exactement. Moi, je suis très.
Voilà, c'est fini, je pense à Jean-Louis Aubert. Voilà.
Ça n'a rien à voir avec la répartition.
Ça
n'a
aucun rapport avec ce qu'on se
dit. Mais ça a à voir avec le. Voilà, c'est fini.
Lui, à chaque fois qu'on parle d'un truc, ça lui fait penser à une chanson. Oui. C'est un karaoké ambulant.
Moi, je vis en chanson.
Il est boxeur et chanteur.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les 140 000 piscines non déclarées, ça, c'est le fisc qui a mis la main dessus. Et puis surtout,
grâce à l'intelligence artificielle,
on va s'intéresser aux messages inquiétants que les lycéens ont reçus. Aujourd'hui, sur l'Île-de-France, je décapiterai tous vos corps de couffards. C'est une vidéo de décapitation qui a été reçue sur leur espace en ligne. Là encore, on est face à un cas de piratage. On va en discuter au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.